Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag avec en deuxième partie, eh bien c'est l'été, un bon livre, ça nous fera pas de mal. Et ce sera les conseils de Cyril, notre libraire à Calligramme à Cahors, en deuxième partie, qui vous donnera ses jolis petits coups de cœur en lecture. Mais dans un premier temps, eh bien le vendredi, il y aura ça jusqu'à la fin, la fin juillet, heure où nous prendrons nos vacances. On va vous emmener à la lecture en deuxième partie, puis en première partie, eh bien des idées de jeux que vous allez pouvoir trouver dans un magasin de Cahors, et c'est des jeux un peu particulier puisqu'il y a toujours une valeur ajoutée dans ces jeux que vous propose Hervé du magasin L'Apprentissage. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Eh bien, j'aime bien ce moment-là parce qu'en fait, quand j'arrive dans ce magasin de Cahors, ben, ça veut dire que c'est soit Noël, là il fait un peu trop chaud, soit c'est l'été. Donc nous sommes avec Hervé du magasin L'Apprentissage à Cahors. Bonjour Hervé.
Bonjour Richard, la mascotte et moi-même, on vous souhaite la bienvenue.
Bah, il est où d'ailleurs?
Juste derrière toi, il nous regarde.
Il nous observe. Salut Richard.
Bonjour à toutes les auditrices.
Alors, c'est l'été, voilà, on aime bien ici vous donner des idées de jeux qui sont différents de ce que l'on peut essayer de vous faire acheter via des publicités à la télé, hein, faut dire ce qui est, et des jeux qui ne sont pas néanmoins sympas. C'est pas facile à dire ça.
Je sais pas ce que tu voulais dire, mais en gros c'était chouette quoi.
En tout cas, c'est super chouette ces jeux-là. Alors, et là on commence avec un jeu. Alors, on a l'impression d'avoir un mini baby-foot, genre, mais il y a des jetons, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Écoute, tu as raison. Ici, on est dans l'esprit d'un jeu de foot. Le jeu va faire à peu près 60 cm par 40 cm. Un beau plateau en bois sur lequel on aura des piquets en bois qui représentent un petit peu des personnages. Et on a un petit jeton tout plat. Ce petit jeton, on va le mettre au milieu. Mmh. Ici, notre objectif va être classique, de marquer des buts. On a ici, comme sur les baby-foot, le petit marqueur de score avec les petits jetons. Le premier qui en met 5 remporte la partie. Ce jeton ici, en fait, va, en le tapant, rebondir sur différents endroits. Chacun un tour de rôle, on met une petite pichenette et on essaye de marquer un but. Voilà. Maintenant, alors, par exemple, ce sera à toi de jouer. Tu mets une petite pichenette, tu essayes de marquer un but, et ainsi de suite.
Donc, c'est-à-dire, parce que là, je vois deux jetons, mais on joue un jeton par un jeton.
En fait,
c'est
un
match de foot réellement.
On a plusieurs règles, en fait. Ah. Exactement. Plusieurs petites règles. La première, on va utiliser qu'un jeton. Voilà, tu essayes. Paf, on essaye de viser.
Mais là, tu m'aides, là.
Tout droit.
Ah, bah, ouais, alors, ouais. Alors, c'est pas si facile que ça.
Mais
non. Effectivement, il y a les petits piquets qui sont au milieu et qui changent les données, en fait.
Exactement. Il faut essayer de prendre. Alors regarde, ici une petite règle. Le jeton s'est retourné.
Ouais.
On le voit, il a deux côtés totalement différents. Lorsque le jeton se retourne, l'adversaire va avoir deux coups. Donc là, on le remet bien droit. Et là, en l'occurrence, pour toi, tu as deux coups. Donc tu peux faire une petite phase d'approche pour essayer de marquer un but.
D'accord.
Il faut apprendre à viser. Allez, encore une deuxième fois.
Mais là, c'est mal barré. Ou alors, il faut essayer de bien faire ricocher, etc. Mais c'est géant ton jeu. Ah, là, t'as deux coups.
Voilà, donc on peut travailler dans un esprit un peu billard.
Oh putain, l'enfoiré.
Voilà.
Donc, t'as un point.
Voilà. Ensuite, effectivement, comme tu l'as constaté, il y a deux jetons. Donc ensuite, on peut changer du coup un petit peu les règles. Ce que j'aime en fait dans ce genre de jeu, c'est que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que ça, dès 5-6 ans, ça colle. Ici, on peut mettre n'importe qui en face, ça va rouler aussi.
Avec les grands-parents, c'est génial.
On peut se mettre assis à table. On est vraiment bien, quoi. C'est vraiment un jeu qui est super pour ça. Tout le monde est bon, tout le monde est nul à ce jeu, quoi, tu vois. Ensuite, du coup, on va pouvoir chacun jouer à tour de rôle, si on veut, inventons une nouvelle règle. Tu prends un jeton, je prends un jeton, je ne joue que le mien, tu joues que le tien, mais chacun à tour de rôle. Tu
vois ? Alors, si je joue...
Voilà, tu vois.
Comment on sait qui sont les jetons de qui ?
Ah, bah, faut repérer, quoi, tu vois.
D'accord.
Voilà.
Et donc, c'est le premier qui marque...
Tiens, oh, joli.
Ouais, sur ce coup-là. Ah, ouais, allez. Mais là, pour une fois, vengeance.
Allez. Donc là, par exemple, il y aurait point pour toi.
Ouais.
Allez, on reprend chacun de son embut et on recommence, ainsi de suite.
D'accord.
Maintenant, comme je voulais le dire, en fait, c'est un jeu où les règles sont tellement simples qu'on peut inventer celles qu'on veut. Tu vois, on peut inventer toutes les règles qu'on veut. Et du coup, ça, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est d'accord, on peut jouer. On peut s'inventer les règles qu'on veut.
Et ça s'appelle comment ?
Alors ça s'appelle un fingerball. Ça, en fait, c'est un jeu traditionnel du Brésil, qu'on trouve vraiment dans tous les cafés, tous les petits bars.
Ah, okay.
Voilà, donc ça, en fait, c'est fait sur un bout de carton, des petits bouts de bois, tac, tac, tac. Et en fait, le petit jeton ici qui sert de lanceur, en fait, c'est une capsule de bière qu'ils utilisent. C'est comme ça qu'on connaît bien le côté retourné ou pas.
D'accord.
Ici, ça s'était donc importé l'idée par deux jeunes Français. Tout est fabriqué en France ici.
Oui, mais ça, comme tous les jeux que tu vends quasiment. Donc.
Non, mais j'essaye. En tout cas, j'y attache une importance. Et donc, du coup, c'est aussi parce qu'on est sur du Made in France que j'ai pris de l'intérêt à ce jeu et que j'ai eu envie de le découvrir et de l'essayer. Ça rajoute forcément quelque chose. On voit bien ici un gros travail sur le bois. Tu vois, celui-ci, ça fait presque un an que je l'ai et il est pratiquement pas abîmé alors qu'il est utilisé quasiment tous les jours. On va avoir différents coloris. Ici, on est sur un bleu et rouge. On en a un aux couleurs de l'équipe de France avec le FFF et les deux étoiles, bien sûr, n'oublions pas. T'en as un sur le Brésil, donc il sera vert et jaune, etc. Donc plusieurs modèles. Tout du fait en France, hyper costaud, carré, voilà.
Et l'autre jeu, alors,
alors
qui vous est conseillé grandement par Gérard...
Richard. Ah ouais, appelle-le Gérard, mais enfin, aussi, il va pas être content.
Hein. Aimé,
ici, donc, Loki, c'est une jeune marque française. Alors, quand je dis jeune, c'est-à-dire qu'elle a pas 10 ans, elle vient pas non plus juste de démarrer. Loki est une marque de jeux de société français qui s'est vraiment spécialisée chez les petits, dès l'âge de 3 ans jusqu'à du 7-8 ans, on va dire. Leur spécificité, c'est soit le jeu de coopération, soit les jeux ludiques. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment des jeux qui sont faits pour s'amuser. Avant tout. Ici, il s'appelle Super Fly. Alors, Fly, ça veut dire en anglais mouche, en français. Ici, l'objectif, ça va être en fait de taper des mouches. On a une petite tapette à mouches.
Ouais.
Comme on peut en avoir l'habitude, alors moins grande que les vraies, évidemment, mais dans l'esprit de la chose, sur lequel on va avoir un demi-cercle en vert à l'intérieur duquel on a un dé.
Ouais.
Ok ? Nous avons des cartes ici qui vont être numérotées de 1 jusqu'à 6 avec des dessins de mouches dessus et on va avoir 6 couleurs différentes. L'objectif, ça va être d'être le premier à récupérer 5 cartes. D'accord ?
Oui.
Ça, on va avoir 3 possibilités. Soit c'est 5 cartes de la même couleur, peu importe leur chiffre. Soit c'est 5 cartes du même chiffre, de couleurs différentes.
D'accord.
Ok. Ou alors, c'est 5 cartes de couleurs différentes, peu importe le chiffre. D'accord ? Pour commencer le jeu, on va se distribuer une première carte. D'accord ? Bon, alors celle-ci, on ne la montre pas, bien sûr. On la garde pour soi, qui est un petit peu notre début. Ensuite, on va positionner...
Tu as montré la mienne, du coup.
Oui, bah, je te montre la mienne aussi, tu as raison.
Voilà,
t'as raison.
Alors,
on va positionner au centre de la table autant de cartes moins une que de joueurs. Imaginons, on joue à 4... On va poser 3 cartes. C'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 5. J'ai oublié de préciser.
De 2 minimum, quoi.
Ouais, 2 joueurs jusqu'à 5 joueurs. Donc imaginons, on est plusieurs, on va les mettre face ouverte. D'accord. Et puis on va devoir, imaginons on joue à 4, il y a 3 cartes devant nous. Ouais. Chacun prend sa petite tapette dans les mains.
Mm-hmm.
On va réfléchir par rapport à la première carte qu'on a. Est-ce qu'il y a une carte qui est en face visible devant nous qui nous intéresserait ? Là, en l'occurrence... Est visible une carte 1, une carte 3, une carte 2, une bleue, une verte, 1-1. En fonction de ce que j'ai, par exemple, moi j'ai un 3 jaune, je me dis que choper le lot 3, ça pourrait être pas mal.
Mais il est vert, donc il faudrait que tu aies les 5...
Exactement, si je veux le même chiffre, il faut obligatoirement qu'ils soient tous différents.
Moi j'ai un 1 bleu, l'idéal ça serait que je prenne le 2 bleu pour continuer une suite, ou le 1 rouge.
Avoir exactement.
Un. D'accord.
Donc là on va faire genre top départ 1, 2, 3 et on va taper sur la carte qu'on veut.
Ah oui, d'accord.
D'accord.
Oui, d'accord.
Imaginons.
Je tape, mais ça secoue le dé, j'imagine, d'accord.
Exactement. Si on est tous avec avoir tapé sur une seule carte, chacun récupère sa carte.
Oui.
T'as tapé sur le 2, je tape sur le 3, tu prends le 2, tu prends le 3.
D'accord.
Imaginons, par contre, on est tous les deux à taper sur la même carte.
Ah, c'est celui qui a
Vas-y.
Le numéro le plus.
Exactement.
C'est celui qui a le numéro le plus. Ah oh, bah là, on est mal barré parce qu'on a le 2 chacun sur le dé aussi.
Alors. C'est celui qui ferait le chiffre le plus gros qui remporte la carte.
Ouais.
S'il y a une égalité, la carte est perdue, ni pour toi, ni pour moi. D'accord ? On s'en défausse. Bon, imaginons, on reprend le début, tu avais tapé sur le 2, tu gardes ton 2, je prends le 3. La dernière qui reste est défaussée. On resserre de nouveau des cartes. D'accord ? C'est reparti, on regarde son petit tas, qu'est-ce qui m'intéresserait, qu'est-ce que je veux.
On est obligé de taper quand même.
Non, s'il n'y a aucune carte qui te plaît, tu ne tapes pas.
Là,
maintenant, tu peux changer en cours de route aussi.
D'accord.
Ton objectif, imaginons là, par exemple, il n'y a que du vert. Ben, moi, j'avais 2-3, mais finalement, les verts, c'est pas mal. Pam. La manche s'arrête quand ? La manche, elle va s'arrêter lorsque il y a une personne qui a 5 cartes dans les mains. D'accord ? Et on va voir après. ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que sur les 5 cartes, tu n'es pas obligé d'avoir réussi à avoir les 5 tout pareils. Je peux très bien n'avoir que 4. Si quelqu'un d'autre qui a joué arrive à avoir plus, eh ben c'est lui qui remportera. Si tous les autres en ont moins, c'est-à-dire que tu n'as plus de cartes parce que tu tapes jamais, eh ben forcément tu ne vas pas remporter la manche. Quand tu remportes la manche, tu remportes un petit jeton. Le premier qui a 3 jetons remporte la partie.
Eh ben c'est génial comme ça.
C'est un jeu rigolo. Et alors je peux te dire que les gamins adorent cette histoire, évidemment, plus le dé. Bah oui. Donc ça permet en fait d'être très dynamique. Et c'est le dé qui va déterminer qui remporte. S'il y a égalité, personne remporte. Voilà. Et alors on enchaîne. Et il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de... On peut taper plusieurs sur la même carte, il n'y a pas de j'ai tapé plus, j'ai tapé avant. Voilà.
C'est très bien comme jeu à amener dans les bagages, dans la caravane, pour les jours où il pleut, par exemple, en attendant qu'il fasse beau pour les faire patienter. C'est un jeu qui se joue aussi en famille, avec, pareil, moi je dis toujours, les grands-parents, parce que souvent les grands-parents vont les avoir aussi.
Pendant les vacances.
Ça, c'est clair.
Et ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est qu'en ce moment, forcément avec les chaleurs, nos amis les mouches sont bien présentes à la maison un peu partout, et on a bien tous un peu leur taper dessus, ce qu'on essaye de faire d'ailleurs. Bon ben là du coup c'est un jeu pour taper sur les mouches.
Et voilà. Ben voilà. Et ben écoutez, si vous avez d'autres envies de jeux comme ça à découvrir, hein, ouais.
Dernière petite chose, parce que ça peut être intéressant aussi, donc le Fingable, le premier jeu est autour de 90€, celui-ci le Superfly autour de 20€.
Voilà.
Et ben c'est une bonne indication.
Rendez-vous au magasin d'apprentissage à Cahors, c'est dans la rue du Portail Alban, un petit quartier que j'aime beaucoup d'ailleurs entre parenthèses, et mais ça tout le monde s'en fout.
Mais non.
Il faut venir voir et au moins pour profiter de ces jeux, il y en a encore d'autres. Bon bah tiens, puisqu'il y en a encore d'autres, je crois que je vais revenir la semaine prochaine. Après tout, c'est l'été, la RV, n'est-ce pas?
Eh bah, ben avec grand plaisir, tu seras le bienvenu. Merci à tous de votre écoute.
Merci d'être avec nous sur CFM dans le mag avec pour vous et eh bien les idées de lecture de nos libraires indépendants du Lot. Et aujourd'hui place au roman graphique, place au roman. Enfin, si vous avez envie de trembler, ouais, hein, vous allez être gâté. Bonjour Cyril.
Bonjour Yannick.
Libraire chez Calligramme à Cahors et qui nous a choisi deux livres. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir le moral, hein, Cyril.
Ah si, ça va très bien, pas de soucis.
Bon, d'accord.
C'est juste que c'est des livres intéressants sur le fond, mais ouais. Pas forcément drôles sur la forme.
Ouais.
Mais puissants, même malgré tout lumineux, notamment pour celui-là.
Alors celui-là, c'est Duchess de Chris Whitaker.
Whitaker, donc effectivement, Duchess, roman... Dans la droite lignée de Betty, de Ne tirez pas sur la zone au cœur. Mmh. Voilà, de vraiment la ligne droite de l'Amérique profonde, de tout ce qui peut toucher à ça. On va suivre l'histoire effectivement de Chess, qui est une jeune fille qui a 13 ans au moment du roman, qui s'occupe énormément de son petit frère, pour la simple raison, c'est que ses parents, sa mère s'est suicidée bien des années auparavant, et son père a disparu, on ne sait pas trop où. Donc c'est une femme qui s'occupe d'elle, voilà, mais mal, puisqu'elle est débordée, donc c'est elle qui s'occupe de son petit frère et qui le protégera contre vents et marées. Sachant que, effectivement, pourquoi cette dérive de cette famille, de la famille Bradley, donc qui est la famille de Duchess, parce que quelques années auparavant, une de sa sœur, en fait, s'est fait écraser par un chauffard, qui, effectivement, a été au départ protégé par le flic local, puisqu'il était très ami avec le shérif local, mais finalement sera emprisonné. Et au début de l'histoire, il revient à Cape Haven, donc la petite ville de Californie, où habite Duchess, et va mettre le bordel, entre guillemets, en revenant et en réapparaissant. Sachant que Duchess, c'est une petite fille qui est très, très, très rebelle, très mature pour son âge malgré tout, et qui surtout déteste tout le monde, hormis son petit frère. Vraiment. Alors, déteste façon de parler...
C'est pas la mentalité.
Détester façon de parler, c'est qu'elle déteste pas, mais c'est qu'elle se méfie de tout le monde. Donc effectivement, elle va avoir... une réaction au retour en fait de Vincent qui est le chauffard en lui-même et qui va essayer de rebousculer son quotidien alors qu'elle se reconstruisait et qu'elle a effectivement tout son petit frère et qu'elle va devoir réagir en conséquence. Et là, on va découvrir toute l'étendue de cette petite fille qui, effectivement, est beaucoup plus complexe que son âge le paraît. Sachant que tout au long de l'histoire, ce que j'adore, c'est qu'elle a à la fois des réactions très enfantines, parce qu'elle, évidemment, n'a que 13 ans, mais qui est capable de prouesses machiavéliques, entre guillemets, pour protéger son petit frère de toutes les ruses, en fait, pour essayer de protéger sa famille, ce qui lui reste, en tout.
Elle est diabolique, mais intelligente.
Pas forcément diabolique, parce que c'est, en fait, elle va vraiment dans la protection. Elle va pas vouloir, en fait, attaquer. C'est juste parce que des choses vont s'engager, en fait, et qui vont entre guillemets menacer son petit frère qui s'appelle Robin, et effectivement elle va tout faire pour le protéger et le protéger de tout, et elle va aller jusqu'aux plus grandes, pas extrémités, mais elle va faire preuve d'énormément de diabolisme, c'est vrai, diabolisme si on veut aller par là, mais de ruse, moi c'est ce que j'appelle la ruse, pour essayer justement de faire en sorte que rien n'atteigne ce petit frère, et ça c'est génial, parce que elle a vraiment cette dichotomie en elle, c'est qu'elle s'occupe de son petit frère comme si c'était elle. Et à côté de ça, elle est capable d'en montrer aux adultes, du monde adulte en fait, et de l'insulter, de réagir comme c'est impressionnant. J'ai adoré la façon.
Mais le thème du livre, c'est quoi? C'est la vie de Duchess ou
Voilà, c'est en fait. Alors, le thème, c'est du roman noir, donc c'est très social. On va découvrir à travers ces petits personnages-là et de ça l'Amérique profonde, donc notamment la ville de Cape Haven, avec où tout le monde se connaît, où tout se sait. Alors, on est toujours dans ce côté un peu remonter des secrets. On va découvrir des secrets au fur et à mesure de l'histoire. Et notamment la relation de Vincent par rapport justement au Bradley. Pourquoi il revient et pourquoi, alors qu'il aurait dû rester, s'écarter là, en sachant qu'il a fait quand même une bêtise. Et que voilà, donc il a une raison pour laquelle il est là. Et notamment, et surtout, on va découvrir aussi tout le quotidien d'une petite ville profonde, par l'entremise des voisins. Donc, ils ont chacun, qui sont des fois caricaturaux, mais qui sont décrits de façon très, très sincère par Chris Whittaker. Et notamment, vous avez un garçon boucher, enfin bref, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est du roman noir dans sa pure essence. Une photographie de l'Amérique telle qu'on la connaît actuelle, et Amérique de petite ville un petit peu oubliée de tout, où il se passe plein de choses. Pour peu qu'on s'intéresse en fait localement à ça, c'est excellent. On est à Cahors, apparemment, c'est pas le même principe, c'est-à-dire que c'est une petite ville de 25 000 habitants où on se connaît tous, où effectivement, si on regarde un petit peu, si on gratte un peu, on découvre des fois qu'il se passe des choses. Voilà, je dis pas au point de vue.
D'ailleurs, je ne dirai rien sur ce que je sais sur toi, mais c'est pas joli.
Là, c'est possible. Ouais. Voilà, mais on est un peu dans ce principe-là de petits villages ou de petites villes, effectivement, où. Les secrets sont jamais, même si on les enfouit profondément, ils sont toujours un peu là, et il ne manque plus effectivement que quelqu'un les déterre pour qu'on fasse. C'est un peu ce principe-là. Les deux chess, et en fait, c'est vraiment ce caractère de cette petite personnage, comme peut l'être Betty, comme peut l'être Scott de Tirer par son moqueur, des petits personnages vraiment intéressants, et beaucoup plus fouillés, malgré le petit âge en fait qu'elles peuvent avoir, qui sont beaucoup plus matures dans la construction de leur vie. Finalement, de Chess, elle est plus adulte que les adultes, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment eu d'enfance, puisqu'elle a dû vraiment... Et c'est ça, en fait, qui transparaît. C'est vraiment ce petite chose où tous les personnages secondaires sont importants, sont des fois aussi importants qu'elle, et c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est une petite pépite, qu'on peut passer vraiment à côté si on ne connaît pas, mais c'est vraiment un roman à lire. Malgré le fait que ça soit l'ombre sombre, Duchess est lumineuse dans son histoire.
Et bien, faites connaissance avec Duchess de Chris Whittaker.
Chez Sonatine.
Chez Sonatine, je ne connaissais pas cette maison d'édition.
Donc, très spécialisée dans les polars, justement, et notamment, ils se sont un peu diversifiés dans les romans noirs ces derniers temps. Et quelques romans, et quelques choses sur la musique, sur le domaine de l'art, musique et danse. Et cinéma, mais voilà, mais c'est une maison d'édition que je suis depuis très longtemps, auquel je suis abonné, et je trouve qu'ils ont toujours des petites pépites comme ça de temps en temps.
On reste dans le noir ?
Toujours dans le noir, exactement. Plus ou moins, ouais. On va rester dans le noir.
Les couleurs lumineuses du noir avec Cyril, et ce roman graphique de Dominique Monferri, Mortel Imprévu.
Chez Rue de Sèvres. Alors, Rue de Sèvres est très bon d'ailleurs.
J'imagine, est à Paris, Rue de Sèvres.
C'est ça, exactement, hein, ouais. On est d'accord. Pour ça qu'elle s'appelle
comme ça. Je suis animateur radio quand même. Hein.
Donc effectivement, Mortel Imprévu, on reste un peu dans le côté, très froid, très noir. On va suivre l'histoire d'Edith. Edith est une jeune femme qui habite à Londres, qui vient de se marier avec un médecin assez reconnu, dont la carrière commence à être boostée, commence vraiment à monter. Et qui effectivement on va découvrir qu'elle est, va découvrir une face cachée de son mari qui va devenir violent. Et on est effectivement en toute à l'époque, on est vraiment dans le moment où il y a la ruée vers l'or aux États-Unis. Donc elle décide en fait de quitter Londres, de partir en catimini et de traverser l'Atlantique pour aller aux États-Unis, pour changer de vie et pour découvrir. Elle va tomber sur un homme qui s'appelle Hans, qui effectivement va la prendre un peu sous son aile, sauf qu'il décide, lui, il va ne pas résister à l'appel de l'or et partir au Nord-Canada pour justement découvrir ça. Et elle va le suivre. Et là, elle va encore changer de vie, entre guillemets, puisqu'effectivement, là, on part dans le côté un peu nord-canadien avec le froid et tout ça, comme ça. Et ils vont avoir une concession et ils vont tomber sur deux autres personnes qui vont partager cette concession avec eux et qui vont effectivement là-dessus. Sauf que un incident va faire que le fragile équilibre qui va s'organiser entre eux va exploser. C'est fulgurant, c'est génial, ça peut être classique dans le scénario et dans l'histoire parce que des romans graphiques ou des films ou des romans qui se passe dans le Nord-Canada, au fin fond de nulle part, avec ce côté, où en fait il n'y a rien à moins de 400 km.
Et c'est ça, il y a l'isolement qui fait que de toute façon, quand tu es dans une situation, tu ne peux pas t'en sortir. Quoi.
Exactement, voilà. Et donc effectivement, qu'on doit compter les uns sur les autres pour effectivement survivre, hein, parce que c'est de la survie plus qu'autre chose, et bien en fait, cette femme va se retrouver mêlée à des choses qui vont la dépasser. Et se révéler à elle-même en fait et grandir malgré avec tous les événements qu'ils vont faire, en sachant qu'ils vont devoir résister au loup, qu'ils vont devoir effectivement rester à la faim, à l'instinct humain aussi qui va faire que cet isolement va faire ressortir en certaines personnes un côté animal auquel elle va devoir faire face. Et c'est juste magnifique. Le dessin est très beau. C'est fait par un ancien Disney.
Alors, quand on disait les plus belles couleurs du noir, c'est très obscur. Hein.
Ouais, mais voilà. Mais malgré tout, en fait, on est vraiment dans ce côté. On est dans les romans de d'isolement, de nord. Enfin, voilà. Ça peut être la route de. Sur la route de. Je ne sais plus le nom de l'auteur.
Memphis.
Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais voilà, on est dans cet esprit-là. Ou le film avec DiCaprio. Voilà. Enfin, c'est vraiment ce côté-là où Dominique Monferri arrive vraiment à faire ressortir ce côté noir, ce côté. Mais il faut vraiment le lire jusqu'au bout parce qu'on va découvrir en fait cette femme qui va surmonter tout. Toutes ces choses et qui effectivement va avoir une fin beaucoup plus intéressante que ce que le roman graphique laisse entendre. Mais c'est voilà, moi j'adore ce genre d'histoire, j'adore ce genre de choses. Franck Buis est un très bon auteur dans ce genre-là, où on passe par le plus bas pour remonter et effectivement finir en apothéose. C'est ce roman graphique-là. C'est le premier roman graphique de Dominique Monferri, même s'il a déjà dessiné pour Disney, même s'il a déjà un passé de graphiste. Il a une autre vie avant de faire de la BD. Il fait vraiment la BD sur le tard. C'est une bonne surprise.
On a compris que tu aimais. Là. Je pense qu'effectivement le message est bien passé, que c'était un de tes coups de cœur.
Voilà.
Et ça s'appelle Le Mortel Imprévu, Dominique Monferri, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Hein. C'est un roman graphique, un petit peu effectivement à la Jack London d'ailleurs entre parenthèses.
Exactement. Hein. Voilà. Bah, c'est un peu ça. Alors, ça a été fait et refait. Mais on trouve toujours des petites histoires.
De toute façon, dès qu'il y a des loups quelque part, déjà on arrive.
C'était un peu ça.
Ouais, on arrive toujours à rendre l'ambiance un petit peu angoissante.
Exactement.
Quoi. Et ben voilà, donc chez vous, libraire indépendant du Lot, ces deux ouvrages que vous pouvez offrir ou vous offrir et lire tranquillement, que ce soit sur votre terrasse, votre jardin, dans votre lit avant de dormir. Et Cyril, à la prochaine.
À la prochaine, Yannick.
Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous allez pouvoir le réécouter, non pas ce soir à 17h, puisqu'il y aura une émission spéciale Qu'est-ce qu'on déguste depuis le festival Pause Guitare à Albi, mais en tout cas à 21h30, ça c'est sûr, et en podcast sur cfmradio.fr, ça c'est encore plus certain. Merci d'être avec nous. Bon week-end à vous tous, et restez à l'écoute de CFM Cahors.